Nous vous proposons une nouvelle édition de Du côté de chez Schwartz, l'émission actuelle et culturelle de Radio Shalom. Et ce soir, nous avons le plaisir de recevoir Richard Darmon qui nous parle d'un exil à l'autre, récit d'une identité en devenir qui paraît aux éditions Lishma. Bonsoir Richard Darmon.
Bonsoir.
Alors vous êtes journaliste, hein, on ne vous ne présente pas hein, sur la fréquence juive. Vous êtes aussi l'auteur de recueils de textes narratifs ou poétiques, L'ombre au seuil, Le chant chez l'Harmattan, Souffle de la terre chez Elkanah. Et votre actualité, c'est la parution d'un essai d'un exil à l'autre, récit d'une identité en devenir aux éditions Lishma. Alors comment le résumer? Il s'agit d'un récit autobiographique qui rejoint finalement celui de milliers de familles juives déracinées d'Afrique du Nord, arrivées en France dans la seconde moitié du XXe siècle et qui feront le choix d'Israël. Des exils qui ressemblent à de nombreux autres, avec en prime un regard de l'intérieur sur les soubresauts historiques de l'époque et des réflexions sur l'identité juive ou le lien à l'État d'Israël. Est-ce que vous pouvez nous expliquer d'abord, Richard Darmon, comment vous est venue l'idée d'écrire cet essai?
Bien, écoutez, d'une part, l'écriture m'est quelque chose d'assez familier puisque j'ai écrit des milliers d'articles en presque 40 ans de carrière journalistique et je trouvais nécessaire, non pas forcément de raconter ma vie, puisque évidemment l'autobiographie c'est toujours quelque chose qui paraît un peu égotique, un peu centré sur soi, mais ce que j'ai voulu faire c'était raconter toute une époque au travers d'un parcours qui était le mien, qui est celui de toute une génération qui a connu en fait trois continents, comme j'aime à le dire. J'ai connu, moi, dans l'enfance, l'Algérie, donc l'Afrique du Nord, puis j'ai grandi en tant qu'adolescent en France, et puis j'ai fait le choix, au début de l'âge adulte, de venir m'installer en Israël. Donc, en quelques décennies, en 6 ou 7 décennies de vie, changer 3 fois d'univers, pas seulement géographique, mais d'horizon culturel, linguistique, et je dirais, comment dirais-je, d'horizon tout simplement de vie quotidienne, c'est quelque chose qui n'arrive pas forcément à toutes les générations. Donc j'ai voulu au travers de ma propre histoire raconter l'histoire de cette génération et aussi disons la traversée mouvementée qui fut la mienne en France en arrivant donc dans les années ou à la fin des années 60, puisqu'on est parti un peu avant l'exil général de 62 en Algérie, et raconter ce qui s'est passé en 67, en 68 et ensuite dans les années qui ont suivi le soulèvement étudiant et ouvrier de mai 68, qui a évidemment compté beaucoup pour moi. Donc je pensais que c'était en fait une chronique un peu de cette deuxième partie du XXe siècle qui débouche évidemment pour moi en 85 sur l'Alia vers Jérusalem.
Alors vous insistez hein, sur l'importance de la transmission, c'est davantage hein, que simplement des mémoires et vous l'écrivez, hein, je vous cite, en hébreu le mot pour dire génération est d'or, il est assez proche du verbe ladour qui signifie habiter, investir une résidence et donc les générations peuvent être vues comme la succession des hommes qui habitent un coin du temps. Les générations se renouvellent hein, et c'est heureux, mais on a l'impression dans votre écrit, qu'il y a une sorte de regard un peu nostalgique qui est porté sur le passé. Est-ce que c'est douloureux de transmettre un héritage ?
Non, mais j'explique souvent, c'est que en ce qui concerne ce passé aussi bien en France que plus encore en Algérie, puisqu'il s'agit de l'enfance, moi je ne suis pas du tout nostalgique, et même le contraire. Alors évidemment que quand on parle de ses souvenirs d'enfants, et des surtout qui ont été marqués par la guerre d'Algérie en ce qui me concerne, puisque je suis né en 51 et la oui. guerre est éclatée en 54, et j'ai assisté à des événements et en entendant des rumeurs de guerre assez considérables. Donc j'ai été assez marqué plus par la guerre que par les plages d'Algérie. Et donc bon, j'ai pas tellement de nostalgie. Pour revenir à ce que vous disiez sur les générations, je cite aussi dans ce même passage cette phrase qui m'a assez marqué de Jean-Paul Sartre, qui, bien que pas toujours apprécié, a plus ou moins juste juste ou injuste titre par, disons, les milieux juifs pour son livre en écrit sur la question juive, qui était en fait une erreur d'appréciation, puisqu'il considérait que l'identité juive était simplement définie par le regard de l'autre. Bon, il en est revenu ensuite, évidemment, dans ses vieux jours, comme tout le monde le sait, mais cette phrase qu'il avait dite, assez intéressante, c'est qu'on ne choisit pas, on ne choisit pas sa génération, mais il faut se choisir en elle. Ça veut dire que, bon, évidemment, chaque personne qui naît ne choisit pas le moment où elle arrive dans le monde, et que ce qui compte pour acquérir une liberté et une conscience, c'est de pouvoir se choisir dans le temps dans lequel on est, ce qui suppose qu'on puisse l'analyser, qu'on puisse le comprendre. Donc, on ne choisit pas. Enfin, la phrase exacte de Sartre me revient maintenant. Il disait, on ne choisit pas son époque, on se choisit en elle. Et donc c'est un peu cette conscience-là dont j'ai voulu décrire les balises à plusieurs époques.
Alors, plusieurs époques qui sont marquées par des exils, c'est le titre du livre, hein, d'un exil à l'autre. Et puis, il y a le terme d'identité, hein, dans la deuxième proposition, récit d'une identité en devenir. Est-ce à dire que les exils construisent l'identité juive ?
Répétez la fin de la question.
Est-ce que les exils construisent l'identité juive ?
Écoutez, on choisit pas. C'est vrai que quelques personnes m'ont fait remarquer qu'en tant qu'Israélien, écrire un premier tome, puisque évidemment, je suis en train de faire la suite sur les années israéliennes, et d'écrire un livre autobiographique s'intitulant d'un exil à l'autre, ça jette une certaine ambiguïté. Est-ce que, comme m'a fait remarquer d'ailleurs une des premières personnes qui a lu le livre, est-ce que, en tant qu'Israélien, tu te considères aussi en exil? Mais je crois qu'il y a eu un petit un mauvais jeu de mots là-dessus, parce que, en fait, quand on voit bien la une de couverture, enfin, d'un exil à l'autre, pour moi, c'est de l'exil algérien à l'exil français, ce que j'écris maintenant, c'est un second tome qui s'appelle Retour à la maison, donc il n'y a aucune ambiguïté sur le fait que, non, on n'est pas en exil en Israël, bien que, bon, au niveau individuel, ça c'est un autre problème. Le genre humain est en exil, et chaque individu est sans cesse en exil tant qu'il ne réalise pas pleinement sa personnalité. Mais c'était pas du tout le sujet. En tout cas,
pour la construction de l'identité juive, en tout cas, c'est important, ces étapes-là.
Oui, tout à fait, puisque mais ce qui était important, c'est ce passage donc de l'Afrique du Nord, je dirais de l'enfance, et où même nos parents, nos grands-parents vivaient dans une certaine perspicace qu'ils étaient, mais dans une certaine naïveté au plan d'identité juive, ainsi que beaucoup. Enfin, moi, je suis né dans une famille très assimilée, qui avait très peu de tradition et qui vivait un peu au jour le jour, comme le décrit si bien Camus. Quand il parle de cette génération un peu insouciante qui ne se doutait pas que les choses allaient exploser sous ses pieds. Cette phase de l'Algérie, c'était une certaine inconscience, et puis ça a été le passage vers la France, où en grandissant, on a compris rétroactivement les événements, et où, oui, notre identité, enfin mon identité au départ, qui était d'ailleurs un peu dans la lignée de celle que décrit Jean-Paul Sartre, c'est-à-dire que moi, arrivé enfant puis adolescent en France, dans les lycées français, où j'ai connu un certain antisémitisme, hein, on parle des années... Enfin, antisémitisme, c'était d'abord anti-pieds noirs, on n'aimait pas beaucoup les pieds noirs qui venaient d'Algérie, ils avaient été caricaturés par les médias français et par le régime gaulliste, et puis après, il y a eu quelques incidents antisémites, comme chacun de nous peut l'avoir vécu, mais plutôt individuel, et donc j'avais une identité juive qui était comme une coquille, qui était dans le regard de l'autre, d'une certaine manière. Et il m'a fallu tout un processus, notamment avec l'expérience du mouvement de 68 et les 10 années qui ont suivi, pendant lesquelles donc j'étais un militant d'extrême-gauche, très actif, trotskiste en l'occurrence. Il m'a fallu tout un parcours pour comprendre que mon identité, c'était pas simplement une naissance ou une histoire passée, mais c'était aussi... comme disait Manitou, non pas du tout une religion, puisque Léon Ashkenazi, j'ai découvert assez tard, au début des années 80.
Alors on va en parler dans un instant, voilà. Si vous le voulez bien.
Ce que je voulais juste finir de dire, c'est qu'il disait que le judaïsme n'est pas une religion, mais une certaine manière d'être homme. Et donc c'est cette manière d'être homme que petit à petit j'ai pu découvrir. Et finalement, oui, enfin, on choisit pas son époque, justement. Bon, moi j'ai été ballotté comme beaucoup d'entre nous par l'histoire, on est parti d'Algérie, on est arrivé dans un paysage français qu'on connaissait pas, un paysage culturel. Bon, on connaissait la langue, c'était déjà au moins ça. On avait la nationalité, mais on connaissait pas du tout les codes français. Il a fallu toute une période d'adaptation. Et puis après, il y a eu 67, qui est un moment pour moi flash, mais qui n'a pas construit forcément un retour au bercail juif tout de suite, bien que j'ai vécu très intensément ces quelques jours-là. Et ensuite, ça a été surtout 68 qui a été pour moi la porte d'entrée dans la société française. Et c'est dans cet investissement-là et aussi dans ce dégagement que j'ai pu revenir vers mon identité juive. Albert Camus avait répondu à Sartre, ce fameux débat qu'on appelait à l'époque le débat pour classe terminale, mais enfin, c'était quand même intéressant, alors que Sartre préconisait l'engagement, enfin sous-entendu pour lui l'engagement dans le Parti communiste et aux côtés de la classe ouvrière, il avait eu cette phrase, il avait dit « s'abstenir, c'est prendre parti », c'est-à-dire que si on n'est pas du côté de ceux qui souffrent et des exploités, ben on est du côté des exploiteurs, c'est un peu manichéen. Et Camus lui avait répondu dans un de ses livres, L'homme révolté, il avait dit pour s'engager vraiment, il faut savoir se dégager. Et donc, moi, il a fallu que je m'engage et que je me dégage grâce à tout un processus de prise de conscience.
Alors on va revenir sur ces étapes-là qui finalement sont celles qu'ont suivies, alors peut-être pas un grand nombre, mais un certain nombre de Juifs déracinés d'Algérie. Et justement, c'est Shmuel Trigano qui signe la préface et son parcours finalement ressemble un petit peu au vôtre comme à celui de nombreux autres déracinés de l'Algérie française. Et il écrit en préface de votre livre, je le cite, « Le livre de Richard Darmon compte l'histoire d'une génération, celle qui atteint les 70 ans aux alentours des années 2020 et qui a traversé l'épreuve de se construire une vie dans trois pays successifs, l'Algérie française, la France métropolitaine, l'État d'Israël, au cœur d'un drame existentiel, la fin de l'Algérie française. » Est-ce que vous pensez, comme Shmuel Trigano, qu'il y a une spécificité algérienne dans l'immigration en France des Juifs du Maghreb ?
Ben oui, tout à fait. D'abord, cette spécificité est due à l'histoire, puisque contrairement aux Juifs tunisiens, aux Juifs marocains qui vivaient dans des protectorats, en fait, les Juifs d'Algérie, qui se trouvaient d'ailleurs dans ce pays depuis de fort longs siècles, qui n'ont rien à voir avec la colonisation française et même avec l'islamisation de l'Algérie, puisque la plupart des Juifs d'Algérie sont trouvé dans ce pays dans la lignée de la seconde destruction du second temple de Jérusalem. Puis il y a eu des allées et venues, certains sont montés en Espagne, puis sont revenus après l'expulsion des Juifs d'Espagne, mais en tout cas la présence juive en Algérie est très ancienne. Et aussi la particularité, leur spécificité, c'est qu'ils ont été faits citoyens français par le décret Crémieux, et leur identité, assez étonnante d'ailleurs, c'était si vous voulez une identité à la fois très algérienne, ancrée dans le sol algérien, dans ce pays, puisque on sait que les Juifs peuvent aussi prendre le premier train de la modernisation qu'on leur propose, et donc on était à la fois très patriotes français, très tricolores en Algérie, juifs compris, on était très algériens, algérois, bon maintenant, évidemment maintenant avec l'indépendance de l'Algérie on dirait plutôt algérois, et puis en même temps, ce qui est intéressant, c'est ce que note d'ailleurs Manitou dans la préface d'un la postface d'un livre portant sur l'opération Torche qui avait été écrit en hébreu par une Israélienne, la fameuse prise de pouvoir à Alger pour permettre ce débarquement américain. Il disait que non seulement il y avait ces deux composantes, l'algérianité, j'allais dire, des juifs de ce pays, leur cocarde française très tricolore, leur patriotisme, mais il y avait aussi une identité juive qui n'était pas forcément religieuse, qui était une conscience. C'est ce que commente Léon Ashkenazi, une conscience d'appartenir au peuple hébreu, au peuple d'Israël, une conscience qui n'est pas religieuse, parce qu'évidemment, beaucoup de Juifs d'Algérie, la plupart étaient déjà dans les années 50-60, à part des fortes communautés comme à Constantine, Tlemcen et ailleurs, mais disons, dans les grandes villes, il y avait déjà une assimilation galopante, mais une conscience qu'on restait juif en tant qu'appartenant à un peuple en exil, justement. Et c'est ces trois éléments qui, qui font la spécificité des Juifs d'Algérie. Effectivement, poser la question à propos de Shmuel Trigano, bon, j'ai eu le plaisir de découvrir ses écrits assez tôt et nous sommes devenus amis dès le début des années 80 et j'ai beaucoup apprécié son parcours. Bon, il a fait un parcours absolument faramineux en écrivant plus de 30 livres en moins de 40 ans, ce qui est exceptionnel et pas n'importe quel livre. Effectivement, il y a une spécificité et aussi, il faut le savoir, c'est pour ça que d'ailleurs, en tant qu'Israélien francophone, je considère que, disons, l'alliance de France est très précieuse, devrait être très précieuse pour Israël. Et puis aussi, le rôle des Juifs d'Algérie est aussi important parce que le paradoxe de cette identité qu'on a commencé à décrire de Juifs d'Algérie, où justement, on dirait plutôt Juifs algériens, parce qu'on n'est pas Juifs d'Algérie comme on est Juifs du Maroc ou de Tunisie, dans le sens où il y a une histoire spécifique qui fait que, si vous voulez, par exemple, les élites intellectuelles, notamment rabbinique de l'Algérie, dès le 19e siècle, dès la seconde partie du 19e siècle, était à la fois très, très francisé, c'est vrai, après le décret Seigneur, mais en même temps aussi très sioniste. Et je cite toujours, bon, grâce aux travaux très importants qu'a effectué le professeur Yossi Charvit, qui a publié plusieurs livres justement sur l'identité juive algérienne, sa spécificité, un fait assez extraordinaire que la plupart des gens d'Algérie ne connaissent pas, c'est que lorsque est intervenue l'indépendance de l'État d'Israël en 1948, c'était au mois de mai, comme on s'en souvient. Quelques jours après, les rabbins d'Algérie, aussi bien d'Oran que d'Alger, enfin, ils ont écrit une lettre commune, une lettre collective, comme ils avaient l'habitude de faire pour poser des questions de halakha, c'est-à-dire de droit juif, est-ce que c'est permis, pas permis, comment faire, c'est ce qu'on appelait les responsa, si vous voulez. Ils ont écrit une lettre de ce genre au rabbinat de Jérusalem, donc on était au mois de juin 48, pour demander si cette année après la résurrection de l'État d'Israël en terre d'Israël qui venait d'avoir lieu, on devait encore faire le jeûne de Tisha B'Av qui devait intervenir au mois d'août plus ou moins. Et donc ils ont posé une question de halakha, mais qui de loi juive, mais qui en fait qui cache derrière elle une espèce de, je dirais, de vision assez historique, assez incroyable et qu'on retrouve pas forcément dans les autres communautés du Maghreb. Il y a une conscience, si vous voulez, de l'identité juive, mais il y a aussi une conscience de des bons apports, qu'est-ce que l'identité juive peut retirer de la res publica, c'est-à-dire de la chose publique ou du politique, grâce, si vous voulez, aux apports de toute l'histoire constitutionnelle française, de l'histoire du droit français, qui a pas mal marqué ces élites, mais qui sont restées des élites sionistes. Or, ce cocktail-là, un peu paradoxal, on le trouve qu'en Algérie, effectivement.
Alors, avec peut-être aussi une particularité hein, parmi les élites, c'est la montée en Israël. Comme vous le disiez et comme vous le soulignez dans le livre, au moment de votre naissance en 1951 en Algérie, il n'y a pas très loin derrière la Seconde Guerre mondiale et puis la proclamation d'indépendance de l'État d'Israël le 14 mai 1948. Et pourtant, eh bien, très peu de Juifs d'Algérie choisissent de monter en Israël. Il y a la guerre des Six Jours qui est finalement l'élément le plus marquant dans la conscience des Juifs de France et c'est notamment André Neher hein, qui le soulignait, c'est que dans ces années de création de l'État d'Israël et jusqu'à 1967, la guerre des Six Jours, eh bien, il y a comme une volonté parmi les Juifs arrivés en France ou les Juifs peut-être aussi d'Algérie de se reconstruire face à ce qui s'est passé et c'est cette fameuse guerre des Six Jours qui va déclencher l'alia de nombreux intellectuels, dont André Neher, dont Léon Ashkenazi, dont Eliane Amado-Lévy-Valency et tant d'autres. Est-ce que ça pourrait être une particularité algérienne qui rejoint celle des autres Français de toute origine ?
Oui, d'un côté, il y avait le dur travail d'intégration de familles qui n'étaient pas d'argent devant elles et qui appartenaient dans le meilleur des cas aux classes moyennes pour la plupart et qui devaient s'intégrer dans un nouveau pays dont ils connaissaient certes la langue française mais pas les codes et ça a été quand même très très dur. Donc c'est vrai que malgré ce sionisme des élites, je crois que 6 à 8% seulement des Juifs d'Algérie ont immigré en Israël Israël entre 48 et 50. Donc ils ont joué la carte française, puisque bon, ils disposaient de la nationalité française. Et j'ai fait moi-même une enquête à une époque quand je commençais à m'intéresser à ces choses-là, il y a assez longtemps. On était en vacances dans une famille familiale, j'ai posé des questions à plusieurs tantes et oncles, etc. J'ai dit, mais finalement, est-ce que... Pourquoi n'avez-vous pas fait le choix, malgré tout, de venir en Israël en 62, même si ce n'était pas en 48, mais en 62, au moment de quitter l'Algérie? Pourquoi n'est pas, vous avez choisi d'aller vers la France? La réponse qu'on faisait, c'était toujours la même. C'est même pas venu à l'esprit qu'on pouvait pouvait émigrer en Israël, parce qu'ils se sentaient tellement français, ils avaient au moins le bagage de la langue. Alors tout ça a été a subi un tremblement de terre, comme vous le dites très pertinemment, en 68, en 67, pardon, avec la guerre des six jours, et vous voyez, un lapsus révélateur, oui. En tout cas pour moi, mais en 67, ça a été un grand sursaut, mais on constate tout de même que ne sont partis vers Israël que les gens qui étaient déjà soit assez religieux, soit sionistes religieux, soit sionistes tout court, et donc, ou alors appartenant comme les intellectuels dont vous avez parlé à l'école de Paris, déjà en formation, et donc si vous voulez, ça n'a pas touché l'alia vers Israël, n'a pas touché les grandes masses de juifs d'Algérie. Il y a des yéhidim, des familles, des individus qui sont partis, mais ça n'a pas été une levée en masse vers Jérusalem. Ceci dit, ça a semé des graines, et c'est le cas pour moi, parce que je raconte dans le livre un moment très fort, c'est que bien que je ne savais pas du tout, quand la guerre a éclaté, au deuxième jour de la guerre, Tzahal réunifie Jérusalem, et un peu par hasard, pas par hasard, j'écoute à midi, avec un peu de retard, puisqu'il n'y avait pas de CNN ni de direct à l'époque, on écoute l'enregistrement de la fameuse, du fameux chauffard du Rav Goren qui sonne le chauffard devant le mur occidental à Jérusalem. Et moi, juif assimilé, j'avais à l'époque, en 67, j'avais 16 ans seulement, après une bar mitzvah faite en phonétique dans un milieu très assimilé, je ne savais même pas ce que c'était un chauffard. On n'allait pas à la synagogue, ni à Kippour, ni à Rosh Hashanah. On était donc très très loin. Et tout d'un coup, j'entends ce son, d'ailleurs présenté par le fameux journaliste Julien Besançon comme des trompettes de guerre juives. C'est le nom qu'il avait dit sur les ondes et qu'il avait utilisé. Et voilà que j'entends ce son, et je ne sais pas pourquoi, de manière très très profonde, je me mets à sangloter alors que je ne comprends pas, je n'ai jamais entendu un chauffard, ça ne renvoie à aucune émotion religieuse, mais c'est quelque chose de tellement profond qui m'a secoué de fond en comble, qui a secoué mon âme, si je puis dire, et c'est ce son-là qui peut-être va, dans les années qui suivent, va m'accompagner, va me réveiller pour me faire revenir à Jérusalem. Ça a été un moment phare, mais qui était un moment flash, si vous voulez, et c'est pas, en tout cas pour moi, et on était vraiment à des kilomètres de penser monter en Israël après 67. Moi j'ai continué mes études et ce n'est qu'après une certaine maturation que j'ai pu me remémorer cette étape de 67 où ça a été une sorte de prélude identitaire.
Nous sommes toujours dans Du côté de chez Schwartz, l'émission culturelle et actuelle de Radio Shalom, en compagnie de Richard Darmon, qui nous parle de son essai « D'un exil à l'autre, récit d'une identité en devenir » qui vient de paraître aux éditions Lishma. On vous lit et on voit que la lecture de « Difficile liberté » d'Emmanuel Levinas vous fait basculer. Finalement, vous comprenez que le judaïsme n'est pas qu'une religion, c'est aussi une civilisation humaine, hein, vous en avez parlé il y a un instant. Et dans le même ordre d'idée, qu'Israël ne constitue pas un groupe religieux parmi d'autres, mais un peuple-nation à l'identité singulière devant assumer des tâches à la fois spécifiques et universelles dans l'histoire humaine. Vous participez à un grand nombre de colloques des intellectuels juifs. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi cette étape de l'histoire des idées de la France du XXe siècle vous a tant marqué ?
Écoutez, ce n'est pas une démarche a priori décrite telle quelle. Il semblerait que ce soit une démarche intellectuelle, un peu théorique. Mais en fait, moi, j'étais engagé dans le militantisme de gauche, d'extrême gauche. Et il y a eu un moment, si vous voulez, une dichotomie que j'ai commencé à observer entre les grands idéaux qu'on proclamait. Il y avait nécessité de ce qu'on appelait la dictature du prolétariat, mais cet état devait ensuite dépérir pour laisser place à l'homme nouveau, etc. Et en fait, moi, j'étais au bout d'un moment, j'écarquillais les yeux en voyant la dichotomie qui existait entre ces grandes idéaux de justice et d'égalité et la manière qu'avaient tout simplement mes compagnons de combat, de lutte, de se comporter. Et il y a eu à cette époque, je parle, disons, du milieu des années 70, fin des années 70, ce qu'on appelait la crise du militantisme, c'est-à-dire cette contradiction qui est apparue aux yeux de pas mal de gens entre ces idéaux et la manière qu'avaient les gens de se conduire. Et donc, j'ai commencé à vouloir faire une sorte de teshuva géographique. Je me suis intéressé justement à Camus. Je suis revenu sur le débat de Sartre-Camus. Et il y a des éléments chez Camus qui m'ont quand même intéressé. Il en parle beaucoup dans L'homme révolté. C'est qu'il dit que quand on veut prôner la justice sociale et qu'on veut organiser des révolutions pour le plus grand bien de tous, eh ben, il faut que les élites qui s'occupent de cette action salutaire, eh bien, et soit composé d'hommes qui aient pu travailler leur caractère. Et explique Camus avec une espèce d'intuition formidable sur ce qu'on appelle dans le judaïsme le travail des midot, c'est-à-dire que pour que les révolutions ne soient pas trahies et se retransforment à nouveau en dictature et en oppression, comme on l'a vu au travers de l'histoire sous toutes les latitudes, il faut, estime Camus, que les élites qui s'occupent de ces choses-là, eh bien, travaillent leur caractère, c'est-à-dire soient des hommes qui se construisent, qui construisent leur personnalité et qui ne laissent pas seulement se laissent aller à leur idéologie ou à leur pulsion. Et donc, ça m'a été un premier code qui m'a beaucoup aidé pour comprendre ce que je voyais autour de moi. Et donc, si vous voulez, ça a permis d'abord aussi, quand on vient de ce qu'on appelait le marxisme révolutionnaire, chez Marx comme chez ses successeurs, on considérait, pour reprendre ses propres termes, la religion comme la vallée des larmes, ou au pire comme l'opium du peuple, il est évident que c'est ce passage-là qui m'a permis, justement, comme vous le citiez tout à l'heure, de ne pas considérer et de rompre avec cette vision du judaïsme comme seulement une religion, mais à la fois, comme le disait Manitou, une certaine manière d'être homme, mais aussi un projet de civilisation et quelque chose que Levinas décrit très bien dans Difficile Liberté. Et ensuite, évidemment, j'ai assisté au colloque des intellectuels juifs en française à la fin des années 70, début des années 80, où là, j'ai pu entendre des choses qui m'ont confirmé dans cette intuition que pour que la société change, il faut que l'homme se change, puisque finalement, le débat initial, c'était est-ce qu'il faut prendre les leviers de commande de la société pour changer les hommes ensuite ? Or, ça ne s'est jamais fait, ça ne s'est jamais bien réussi, ça a toujours mal tourné avec des révolutions trahies. Ou alors, pour que ça réussisse, il faut que les hommes s'amendent, se construisent, et peut-être dans ce cas-là, on pourra faire des changements sociaux bien compris.
Et précisément,
et d'ailleurs le rôle d'Israël, d'une certaine manière.
Et donc le 68ard d'extrême gauche que vous étiez commence des études talmudiques, notamment avec le Rav Abitbol.
Oui, moi je me suis retrouvé à Strasbourg, bon, parce que je savais pas très bien. Bon, à vrai dire, j'ai commencé à être journaliste, je faisais des piges au Monde, je faisais des enquêtes de terrain pour le Monde Dimanche, le supplément hebdomadaire du Monde, qui n'existe plus là de nos jours, mais je parcours la France faisant de grandes monographies, des enquêtes sociales, et puis comme dans le film Dr. Jekyll Mr. Hyde, je disparaissais 10 jours, j'allais m'imbiber d'un certain nombre de cours et de choses tout à fait nouvelles pour moi à Strasbourg, chez le Rav Abitbol, et tout ça intervient une quinzaine d'années avant que un ancien 68ard bien plus célèbre que moi et philosophe de son de formation et de vocation, Benny Lévy, fait le même parcours, mais il l'a fait bien après. Bon, moi, j'ai fait un parcours strasbourgeois assez rapide parce que j'étais un petit peu à côté de la plaque. Ça a été très difficile de comprendre les cours de Talmud parce que je possédais mal l'hébreu, mais j'étais un petit peu aidé et ça me passionnait. Mais ce qui a fait craquer cette aventure, c'est que je l'explique en détail dans le livre, c'est qu'un jour, bon, ce que j'aimais bien dans les cours là-bas, c'était les cours de Tanar, le Shabbat matin, parce qu'évidemment la Guémara c'était trop technologique pour moi pour commencer par là, vu mon degré zéro de savoir juif. Et donc j'aimais bien les cours de Tanar. Et lors d'un de ces cours, les cours de Bib autour de la Parashat HaShavua, et lorsque un jour quelqu'un de manière anodine a posé au Rav Abitbol sur un sujet dont je ne me rappelle même plus le contenu, mais c'est la réponse qui m'a sidéré, il a dit: oui mais Rav, c'est intéressant ce que vous dites, mais Israël dans tout ça. Et que lui a répondu le Rav Abitbol? Et alors là, j'ai failli m'exclaffer. Il dit: ah oui, Israël, c'est une expérience intéressante. Comme si, comme la création de l'État d'Israël, sa survie et sa centralité étaient comme ça, une espèce d'expérience anodine. Et à partir de là, bon, je ne suis plus retourné à Strasbourg, bien que j'y avais eu beaucoup d'amis. Et j'ai cherché dans les milieux parisiens des endroits d'études qui pouvaient me convenir. Et ce n'était pas très facile. Je parle des années 80-82 à peu près. Voilà.
Alors moi j'allais vous poser aussi cette question et l'Alia à Israël dans tout ça, mais vous y avez répondu tout à l'heure, c'est l'objet d'un nouvel ouvrage.
Oui, enfin c'est à l'époque je savais pas que j'allais écrire un ouvrage, mais si vous voulez le faire.
En tout cas nous pour découvrir et vous lire dans cette dernière étape, on reste un peu sur notre fin.
Ben oui, puisque je finis le livre le jour de notre alia avec ma jeune épouse et mes deux petites filles de 2 ans et demi et 1 an. Et donc, d'ailleurs, je me proposais à mon éditeur d'intituler en sur-surtitre tome 1. Bon, il n'a pas voulu le faire parce qu'il voulait savoir comment... tome 1 qui annonçait un tome 2, en fait. Oui. Il voulait savoir comment ça allait marcher. Bon, donc, mais le fait est que c'était la logique, la suite logique de ce premier tome, c'était de raconter ce qui se passe en Israël et notre trajectoire en Israël. Et d'ailleurs, ce que j'explique aussi, c'est que le départ de Paris, au moment, moi j'étais correspondant de journal, enfin j'étais à Libération, je suis rentré après le moment dimanche à Libération, et puis j'ai demandé à partir parce que je voulais pas rester à Paris pour différentes raisons, justement de recherche identitaire. Et le milieu de Libération, ce n'était pas exactement celui que je cherchais, la rédaction de Libération. Et donc, quand un poste de correspondant dans le Midi de la France s'est dégagé, après un mois de stage que j'avais fait l'été 81, j'ai pris la correspondance de Libération dans le sud de la France. Et là, le départ de Paris, je pense que c'était vraiment assez, je l'ai compris qu'après, mais le fait d'être parti de Paris dans certains milieux, de vivre le désert provincial français, bien qu'il y ait eu une communauté juive sympathique avec Aix-en-Provence, mais le fait d'avoir connu la France profonde, la France de la province, ça m'a, à moi-même et à mon épouse, et avec la naissance de deux petites filles, ça nous a décidé à partir plus vite sans doute que nous l'aurions fait si nous étions restés à Paris. Parce que il y a un certain milieu, c'est une grande Babylone, Paris, avec si vous voulez toutes sortes de la vie juive à l'époque qui émergeait, pas seulement dans les lieux d'études, mais dans les restaurants, la vie communautaire. Et je pense que la difficulté de ce que j'appelle le désert culturel d'Aix-en-Provence, ça a été pour nous un tremplin. D'autant qu'à la même époque, je reviens à Chemin Trigano, j'ai lu son livre, découvert son livre qui a beaucoup compté pour moi, puisque dans le livre, je dialogue avec des passages du récit de la disparue. C'est le livre écrit par Shmuel au début des années 80. Et je dialogue avec lui, si vous voulez, en racontant ce que certains extraits de cette lecture ont suscité chez moi, dans ma propre vie. Et d'ailleurs, Shmuel, quand je lui ai passé le manuscrit avant qu'il le dédicace, il a eu cette phrase, puisqu'on se connaît depuis assez longtemps, il a eu cette phrase assez étonnante et à la fois sympathique et un petit peu surprenante. Il a dit: je ne savais pas qu'un livre, un livre que j'écris, qui est de manière assez philosophique, c'est un livre de réflexion, je n'imaginais pas ce qu'un tel livre pouvait générer chez telle ou telle personne, parce qu'il était surpris par tout ce que j'avais écrit. Et donc, si vous voulez, ce récit de la disparue, et la disparue, c'est l'identité juive, ça nous a conforté pour prendre le chemin d'Israël. Et pour, comme je le dis d'ailleurs lorsque je parle du livre, le dilemme auquel se font face pas mal de juifs par rapport à leur enracinement en France et en même temps leur regard vers Sion, ce qui nous a, qui nous a un peu décidé, c'était de, au moment où nous avions nos deux petites filles de 2 ans, qui avaient 2 ans et demi à l'époque et 1 an, c'était de savoir où nous voulions planter notre arbre généalogique. Est-ce qu'on voulait rester dans le terreau et le terroir français, ou est-ce qu'on voulait passer à autre chose et le planter notre avenir générationnel dans le pays des Hébreux, et voilà, d'où le choix d'Israël.
Qu'on lira dans le second tome. Il y a une question classique, mais non moins difficile, pour conclure cette émission. Si en une ou deux phrases, vous deviez donner l'envie aux auditrices et aux auditeurs de la Fréquence Juive de lire votre essai, qu'est-ce que vous leur diriez ?
Bien que si tant est qu'une biographie puisse réussir son but, ce n'est pas de raconter l'histoire de quelconque personne à titre privé, mais de, au travers d'une histoire particulière, d'aider à faire prendre conscience de toute cette époque dans laquelle nous vivons, et que les choix qui doivent s'y faire. Et je reviens toujours à cette phrase de Jean-Paul Sartre. Vous voyez, c'est pas une phrase du Talmud, mais c'est une phrase très juive qui disait: on ne choisit pas son époque, mais il faut se choisir en elle. Et bon, ben moi, on a fait différents choix qui nous ont amenés là où nous sommes, et je crois que ces choix doivent être partagés.
Merci beaucoup, Richard Darmon, d'avoir décrypté avec nous votre actualité. Je le rappelle, la parution de l'essai D'un exil à l'autre, récit d'une identité en devenir, donc tome 1, aux éditions Lishma. Bonsoir et à très bientôt.
Bonsoir et merci.